Vous savez, au cours des années, l'endroit où je réside est devenu bien connu de la population aux alentours. Croyez-moi, je ne suis pas le seul à voir des choses étranges chaque jour. Cette région entière est le lieu de phénomènes surnaturels. Et cela depuis des décennies. Mon humble résidence n'en est que l'épicentre. Il y a plusieurs conséquences à cela, notamment des phénomènes surnaturels en pagaille, esprits, démons, cadavres qui marchent avec l'eau du corps manquant. Ce n'est pas pour rien que toutes les tombes ici ont des grilles en métal au-dessus de leur emplacement. Mais j'ai vécu ici, ou disons, plutôt survécu, et diffusé mon émission depuis cette vieille station de radio depuis suffisamment de temps pour que les gens me prennent pour une sorte d'expert du paranormal. Ce qui fait que non seulement je gère les esprits qui débarquent ici dans mon salon, parfois une seconde après leur mort, surtout pour écouter leurs histoires et pouvoir vous en faire part, mais de plus en plus, on me ramène au pied de ma porte d'entrée branlante toutes les saloperies surnaturelles aux alentours, en espérant que je puisse m'en occuper. Si je vous dis ça, c'est parce que hier soir, aux alentours de minuit, en buvant mon café, je suis passé devant ma porte d'entrée et j'ai remarqué une ombre bloquant la lumière de la lune dehors, dans les interstices sous la porte. Considérant le fait que rien n'essayait d'enfoncer ma porte, et que personne ne criait à l'aide, insérer le nom d'une créature horrible, essayer de me tuer, je n'ai rien ressenti d'autre sur le coup qu'une légère surprise, à la vision de cette ombre noire s'enfonçant dans les ténèbres du couloir qui y mène. Pour autant, j'ai préféré maintenir mes sens en alerte, et je n'ai pas baissé ma garde. J'ai failli perdre ma tête plus d'une fois dans des circonstances similaires, où le danger semblait loin et était pourtant tapis dans l'ombre, juste en face de moi. Je me suis prudemment dirigé vers la porte, en évitant les planches au sol qui grinçaient au cas où la personne ou la chose derrière la porte soit en train de tendre l'oreille, attendant de pouvoir me tendre une embuscade. En posant mon oreille contre la porte, je n'ai rien entendu, si ce n'est le vent dehors qui frappait les arbres. J'ai donc attrapé un tournevis, posé sur le meuble en bois à ma droite, et j'ai saisi de ma main gauche la poignée. J'ai ouvert la porte d'un seul coup, arrachant presque à ses étages branlant au cadre. Et j'ai été accueilli par une brise froide et un carton fermé sur le pas de ma porte. D'en haut, c'était difficile de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je pouvais tout de même voir que ce n'était pas le facteur qui me l'avait déposé. Déjà parce que depuis la disparition mystérieuse des trois premiers facteurs, plus personne ne passe. Et parce qu'il n'y avait aucune adresse sur le paquet. Je me suis accroupi, restant toujours aux aguets des sons autour de moi. Et j'ai posé mon oreille contre le paquet cette fois-ci. Pour comprendre pourquoi je fais ça, il faudrait que je vous raconte la fois où quelqu'un m'a laissé un bras possédé à l'intérieur d'un paquet. Lorsque vous ouvrez un paquet et qu'un bras décomposé vous saute à la gorge, croyez-moi, vous ne prenez plus de risques ensuite. Ce paquet-là, heureusement, était complètement silencieux. Tout comme cette nuit. Désireux de rester le moins longtemps possible sur le pas de la porte, j'ai soulevé le carton, très facilement, et j'ai pris soin de le ramener à l'intérieur avant de l'ouvrir. Lorsque je suis entré dans mon salon, le feu craquait encore dans le foyer de la cheminée, malgré l'heure avancée, et la lumière de l'unique chandelier au plafond émettait une lumière jaune et pâle sur le reste de la pièce. La pièce contient seulement quelques vieux meubles en bois, une cafetière, une unique table au centre et quelques chaises autour. J'ai posé le paquet sur le milieu de la table branlante, et j'ai abandonné mon tournevis pour un couteau trouvé dans un tiroir. J'ai effectué une unique incision, au milieu du paquet. Une fois ouvert, j'ai gardé le couteau dans ma main droite parce que, on ne sait jamais, et j'ai utilisé ma main gauche pour écarter les pans du carton et voir son contenu. J'ai lentement baissé mon bras tendu lorsque je me suis rendu compte qu'il contenait seulement deux cassettes VHS pour magnétoscope. Un mot écrit sur un morceau de papier déchiré avait été glissé à l'intérieur aussi. Un numéro de téléphone était inscrit dessus. Et rien d'autre. Vous connaissez ma passion pour les cassettes. Je n'avais qu'une envie. C'était de la glisser délicatement dans son cadre rectangulaire et de découvrir son contenu. Mais j'ai ravalé mon excitation et j'ai reporté mon attention sur le numéro de téléphone. Une enquête s'imposait avant de se lancer la tête la première. J'ai donc appelé le numéro, et quelqu'un qui se donnait le pseudonyme Your Friend Off m'a répondu d'une voix tremblante et mal assurée. Il m'a néanmoins raconté son histoire, et a admis qu'il avait laissé les cassettes dans le paquet devant ma porte, en espérant que je puisse l'aider à comprendre ce qu'elles signifiaient, et s'il était réellement en danger, après les avoir regardées. Alors je vous parle, les cassettes sont détruites. Mais j'imagine que, curieux comme vous êtes, vous voulez savoir ce qu'il y avait dessus. À défaut de pouvoir vous les diffuser, je peux au moins vous raconter l'histoire de Your Friend Off. J'ai trouvé une cassette VHS dans un magnétoscope que j'ai acheté. Je regrette d'avoir appuyé sur play. Une histoire de Your Friend Off. Il y a quelques jours, ma mère m'a confié la malheureuse tâche de monter une bobine vidéo pour le 50e anniversaire de mes grands-parents. Tu es tellement doué pour le montage, et en plus, j'ai acheté le convertisseur analogique numérique, ce qui représente déjà la moitié du travail. Tout ce que tu dois faire, c'est connecter notre magnétoscope à notre ordinateur et passer les cassettes en vue. On était venu à peine de commencer, et on me mettait déjà au travail. J'ai gémis et j'ai apporté les cassettes qu'elle avait laissées à notre sous-sol pour essayer de trouver notre magnétoscope. Après avoir fouillé dans ce qui semblait être des centaines de boîtes, je l'ai trouvé. Mais après l'avoir branché sur notre télévision, j'ai vite compris pourquoi nous étions passés au numérique. Il est cassé? Tu as essayé de souffler dedans? Ma mère mérite le prix Nobel après cette idée. Maman, les magnétoscopes sont vieux. Le faire marcher par bouche à bouche ne va pas le faire fonctionner. Eh bien, je vous ai laissé à toi et ton frère un peu d'argent pour la semaine, pendant que je ne suis pas en ville. Vous pouvez utiliser une partie de cet argent pour en acheter un autre. Je suis sûr que tu peux en trouver un pour pas cher. En disant cela, j'ai regardé la table de la cuisine, et j'ai vu l'argent qu'elle avait laissé. M'envoie le voir marquer dans une minute, Ronnie. S'il te plaît, fais tant mieux pour régler ça. Je t'aime. D'accord, fais un bon voyage, maman. Je t'aime aussi. J'ai raccroché le téléphone, et je suis parti à la recherche du lecteur de magnétoscope le moins cher que je pouvais trouver. Comme ça, on pourrait utiliser le reste de l'argent pour se goinfrer de pizza et de fast-food le reste de la semaine. J'en ai trouvé un presque instantanément à la friperie de la ville. Je l'ai immédiatement acheté. Plus vite ce sera fait, plus vite je pourrai retourner me prélasser et passer mon été comme il est censé être passé. À ne rien faire. Après avoir couru jusqu'à la maison et s'être installé au rez-de-chaussée, j'ai poussé un soupir de soulagement lorsque le magnétoscope s'est allumé. J'ai pris une cassette pour la charger. Mais elle ne voulait pas rentrer, car le magnétoscope contenait déjà une cassette VHS. En appuyant sur le bouton d'éjection, j'ai vu une cassette VHS d'une étrange couleur, rouge, avec une étiquette représentant un smiley souriant. La curiosité a pris le dessus. J'ai rechargé la cassette et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Un écran bleu s'est allumé sur mon téléviseur, avec le mot « play » dans le coin supérieur gauche. Ensuite, un écran encore noir, avec quelques rayures classiques de VHS ici et là, avant qu'un titre apparaisse. Jours heureux. Ce que j'ai vu restera jamais gravé dans ma mémoire. On voit une femme attachée à une chaise de bureau, dans une pièce faiblement éclairée. Des larmes coulaient sur son visage. Elle était vêtue d'une chemise transparente aux couleurs chatoyantes. Deux personnes en costume de clown, toutes habillées de la même façon, surgissent joyeusement et se glissent derrière elle. Ils l'ont réconfortée presque par dérision, en lui pinçant les joues et en séchant ses larmes, tandis que l'une des mascottes commençait à peindre son visage, et l'autre à tester sur elle un assortiment de perruques colorées. Ils ont tous les deux commencé à faire ce gémissement inhumain, alors que ses cris devenaient de plus en plus forts. Ils ont continué à la préparer pour ce qu'il attendait, jusqu'à ce qu'il semble satisfait et la fasse sortir hors de la pièce en poussant sa chaise. Ce qui a suivi, c'est son cri perçant. J'avais l'estomac noué quand l'écran est redevenu noir. J'ai senti une goutte de sueur sur mon front. J'ai failli sursauter en entendant mon téléphone recevoir quelques SMS. Je ne pouvais pas détourner le regard. C'était comme regarder un accident de voiture. Je voulais m'arrêter, mais j'étais collé à l'écran. Était-ce une sorte de blague de très mauvais goût? Peut-être une sorte de projet d'art? J'avais vu des choses assez étranges sur Internet, mais là, c'était vraiment bizarre et très réaliste. Un autre écran titre est apparu. Performance d'une vie. Un projecteur est apparu pour révéler une scène. Et sur cette scène se trouvait un type habillé d'un costume de singe et attaché à un diable. Ce truc à roulette utilisé pour transporter les objets lourds. Il partage la scène avec un groupe d'animatroniques cassés. Ces robots rouillés tenant à moitié debout avaient presque l'air vivants, sous la lumière tamisée de la scène. Ils se tenaient tous debout, devant un public vide. Un léger tapotement. Et une voix chuchotante pouvant être entendue en dehors de l'écran.
1, 2, 1, 2, 3.
Un piano a lancé un air, tandis que le type en costume s'est mis à chanter d'une voix tremblante. Son chant a été interrompu par une fléchette qui lui a frôlé la tête, et il a manqué de peu. Soudain, un enregistrement de plusieurs rires a été lâché dans le silence, tandis que quelqu'un hors champ continuait de lui lancer des objets. Une agrafeuse, un verre et une balle de baseball ont été lancées. Chaque fois, de plus en plus près du but. Le gars était de plus en plus secoué, jusqu'à ce qu'il éclate en sanglots. Ses cris hystériques étaient de plus en plus forts, et les rires étaient maintenant presque assourdissants. Une voix grave s'est écriée.
Continue !
Juste à ce moment-là, un marteau a été lancé et était sur le point de frapper le crâne du gars. Je me suis instantanément détourné, j'ai tout éteint. J'avais maintenant des sueurs froides. J'ai pensé appeler les flics, mais je n'avais aucune façon de leur expliquer cette vidéo. Ils pourraient considérer que c'était une farce stupide, ou me dire que je n'avais pas de chance et que je devais m'en débarrasser. Mon frère était chez des amis ce soir-là, mais je me suis dit qu'il pourrait me donner de meilleurs conseils sur ce que nous devrions faire à son retour. J'ai décidé d'essayer d'oublier tout ça, de me détendre un peu et de commander une pizza en regardant quelques séries avant d'aller me coucher. Il était difficile de s'endormir avec les images de ce que j'avais vu dans ma tête. Au moment où je commençais à m'endormir, j'ai entendu un bourdement dans notre salon sous-sol. J'ai couru en bas pour voir ce que c'était. J'ai vu que la télévision et le magnétoscope étaient de nouveau en marche. Un autre écran noir avec le titre « Délicatesse locale ». J'étais figé par la peur en regardant un homme attaché à un fauteuil roulant assis à une table. Il s'agissait d'un homme à l'allure assez imposante qui portait un chapeau d'anniversaire et un bavoir. Quelqu'un hors champ lui a apporté un chariot de nourriture avec un tas d'entrées bizarres et grotesques. La personne a commencé à donner à l'homme un échantillon de chaque plat. L'un d'entre eux était une meule de fromage, avec ce qui ressemblait à des asticots rampants à l'extérieur. Le plat suivant était une pieuvre vivante, qui lui enfonçait dans la bouche. L'homme tremblait et s'étouffait à mesure qu'il avalait chaque plat. La personne qui était cachée a éloigné le chariot de nourriture, tandis qu'une autre personne est apparue à l'écran, pour placer un plateau devant l'homme, et a retiré le couvercle. C'était un gâteau d'anniversaire. Lorsqu'ils ont coupé le gâteau, un liquide de couleur sombre s'est écoulé. Ils ont commencé à enfoncer des morceaux de gâteau dans la gorge de cet homme, jusqu'à ce qu'il commence à s'étouffer. Les mains hors champ ont frappé dans le dos, et après quelques fortes toux, le type a vomi ce avec quoi il s'était étouffé. Un orteil humain. Je n'en pouvais plus. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. J'avais besoin d'appeler quelqu'un immédiatement, mais j'ai été frappé par une question terrifiante. Qui avait tout remis en marche? Je suis remonté vers ma chambre pour prendre mon téléphone. Et j'ai vu mes pires craintes se réaliser. La porte d'entrée avait été déverrouillée. J'ai failli m'évanouir en voyant les lumières de notre cuisine allumées. Et une ombre qui rôdait. J'ai lentement tourné la tête pour regarder, me préparant à monter en courant quand j'ai vu mon frère fouiller dans les restes de pizza. Le visage plein de pizza, il a lâché.
Quoi de neuf, Ronnie ?
Bon sang, Tim, tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce que tu fais là? Il voyait bien que j'étais un peu moins enthousiaste à l'idée de le voir. John voulait s'éclipser pour aller voir sa copine, alors il m'a déposé. J'ai essayé de t'envoyer un texto pour te dire que je reviendrai plus tard et que je n'avais pas ma clé sur moi. J'ai pensé que tu l'avais vu parce que t'as laissé la porte ouverte. Je suppose que j'ai pas vu ton message. Pourquoi est-ce que tu as allumé la télé au sous-sol? La réponse de Tim m'a fait frissonner. De quoi est-ce que tu parles? Je suis pas encore descendu. J'ai raconté à Tim tout ce qui s'était passé. Et heureusement, il m'a cru. Nous avons fouillé toute la maison à la recherche d'un quelconque intrus avant de décider si nous devions appeler les flics. Mais nous n'avons rien trouvé. Tim a ignoré l'incident et a suggéré que j'avais probablement oublié de verrouiller la porte et que j'avais laissé la télévision et le magnétoscope allumés. J'ai essayé de rembobiner et de montrer la cassette à mon frère, mais elle ne voulait pas marcher. C'était comme si la cassette était maintenant défectueuse. Peut-être que c'était un de ces films d'horreur à petit budget ou une sorte de farce élaborée. Rapporte juste tout ça au magasin d'occasion demain et demande d'où est-ce que le magnétoscope venait. Je n'avais pas vraiment la possibilité d'argumenter avec lui. Alors le lendemain, je suis retourné au magasin. Je peux pas vous dire d'où vient ce magnétoscope. La plupart de nos stocks proviennent de dons. L'employé du magasin m'a renvoyé dans une autre impasse. Une dernière idée m'a traversé l'esprit en rentrant chez moi. Démonter le magnétoscope. J'ai apporté le magnétoscope dans mon garage et je l'ai retourné sur le dos. Le panneau arrière s'est détaché étonnamment facilement, comme s'il avait déjà été manipulé. À l'intérieur du magnétoscope se cachait quelque chose qui n'avait pas l'air à sa place. Ça ressemblait à un AirTag utilisé avec les iPhones.
Hé, Ronnie, il y a un paquet pour toi.
Mon frère m'a tendu un paquet en papier bulle avec mon nom dessus, alors que je revenais avec le magnétoscope. Ma respiration s'est arrêtée net en l'ouvrant. Je savais déjà ce que ce serait. Une autre cassette VHS rouge, avec une étiquette qui disait simplement « Bonjour, smile et souriant ». J'ai paniqué et j'ai rebranché le magnétoscope pour voir le contenu de la cassette. Ce que j'ai vu est... Si je survis à tout ce bordel, je ne regarderai plus que du numérique à partir de maintenant. Malgré mes recommandations, Your Friend Off a publié en ligne le contenu de la dernière cassette qu'il a reçue. Si vous souhaitez absolument voir cette cassette, vous trouverez un lien dans la description. Regardez-la à vos risques et périls, bien sûr. Si ces cassettes VHS vous ont effrayé, alors laissez-moi vous dire que ce n'est rien en comparaison des légendes urbaines du coin. Quelqu'un comme Fisherman Tales pourrait vous dire la même chose. Je l'ai rencontré à peine quelques jours avant d'avoir découvert ce carton devant ma porte. Non loin des bois, à peine 1 kilomètre de ma station, armé d'un fusil et d'une lampe, en pleine nuit. De mon côté, j'étais venu jeter un œil à la bordure de la forêt, après avoir entendu parler d'une légende concernant un esprit ou une créature qui arrachait les dents de ses victimes. Un collectionneur, puisque, visiblement, il les conservait après s'être débarrassé du corps de ses victimes. Quand je l'ai surpris, Fisherman Tail a d'abord braqué son arme sur moi, le doigt sur la gâchette, les yeux injectés de sang. Mais il a rapidement baissé quand il a vu que je n'étais pas une menace et nous avons constaté que nous étions tous les deux venus chercher la même chose. Je l'ai invité à se rendre à ma station pour échanger des informations et c'est là qu'il m'a raconté qu'il chassait une chose qu'il appelait le dentiste. Et cela depuis des années. Fisherman Tail a eu le malheur de rencontrer le dentiste lorsqu'il était encore jeune et insouciant. Voici son histoire. Le sourire du dentiste. Une histoire de Fisherman Tales. Dans un temps révolu, il était dentiste. À l'époque où l'alcool était le seul anesthésiant et où les traitements ressemblaient davantage à des tortures. Quand on pouvait voir sur une table à côté de soi une paire de pinces, une série à main et un assortiment d'autres outils qui semblaient mieux adaptés à un chantier de construction qu'à des dents humaines. Pour ceux qui vivent dans ma ville, il est connu simplement comme le dentiste. Une figure mythique des siècles passés. Mais il est plus qu'un mythe. Il a été vivant une fois. Et maintenant, il vit à nouveau. Ce qui fait de lui un personnage si unique, ce sont les circonstances dans lesquelles il a terminé sa carrière. Un après-midi, il s'occupait d'une jeune femme qui souffrait d'un horrible mal de dents récurrent, la tripotant avec une curette en métal lorsque quelque chose a changé dans son regard. Selon la femme, il avait l'air d'avoir été écarté de son âme. Et quelque chose d'autre avait pris sa place. Quelque chose de maléfique. Il a commencé à gratter sans cesse sa dent, dans un mouvement rapide de va-et-vient, comme s'il essayait de s'enfoncer dans le noyau de sa dent.
« Qu'est-ce que vous faites ?»
Elle a marmonné, et ne recevant aucune réponse, elle lui a ordonné d'arrêter. Mais toujours, il a continué à gratter, jusqu'à ce que finalement elle le repousse d'un coup de pied et se précipite vers la porte.
« Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?»
Elle s'est écriée. Le dentiste a tourné silencieusement la tête vers elle. Il a remplacé la curette par une paire de ciseaux. Et à sa grande horreur, il a commencé à se couper les lèvres du visage. La femme en avait assez vu et s'est rapidement enfuie du bâtiment, avertissant les autres en chemin. C'est à partir de ces personnes que l'histoire se poursuit. En particulier un ancien combattant local qui, ayant vu beaucoup d'angoisse et de souffrance mentale en son temps, se sentait l'homme qu'il fallait pour aider le dentiste à traverser ce qui semblait être une dépression nerveuse évidente. Mais lorsque l'homme a courageusement pris d'assaut le bureau, il a trouvé le dentiste, les yeux sauvages et ensanglantés, les dents qui n'étaient plus cachées derrière la chair, maintenant exposées dans un large sourire permanent.
« Mon Dieu, que vous êtes-vous fait ?»
L'homme a murmuré. Le dentiste n'a pas parlé. Il a fait un pas vers l'homme. Et comme la femme avant lui, l'homme s'est enfui lui aussi, en prévenant les autres sur son passage. Le dentiste a fini par sortir de l'immeuble, passant devant des badauds effrayés qu'il observait derrière des fenêtres et des couvertures. Il se retrouva dans les bois voisins, où il fut vu pour la dernière fois, entrant avec un rouleau d'outils dentaires en cuir et un large sourire sanglant. 200 ans se sont écoulés depuis, et bien que tout le monde s'accorde à dire que le dentiste doit être mort depuis longtemps, la réticence à entrer dans les bois est restée ancrée dans chaque génération de citadins. Mais les adolescents ont tendance à tester les légendes, que ce soit pour l'excitation d'une bonne frayeur ou l'arrogance de la jeunesse. Comme ce fut le cas pour mes amis et moi, il y a de nombreuses années. Nous sommes entrés dans les bois cet après-midi-là, transportant du matériel de camping pour une aventure de nuit. Nous étions trois. Moi, Dean et Sandy. Dean était le sceptique, disant des choses comme « J'espère que nous verrons le dentiste, j'ai besoin d'un bon nettoyage. » Alors que Sandy était la croyante du groupe, avertissant Dean de « surveiller sa bouche ». Littéralement. Moi, j'étais l'agnostique. Quelle que soit la vérité, je ne m'attendais pas à ce que quelque chose de mal arrive. Au pire, on aurait une histoire de fantôme effrayante à raconter. Ce qui était aussi le meilleur cas, je pense. Quelle naïveté. Au coucher du soleil, nous avions trouvé un endroit et étions installés pour la nuit. Le feu crépitait, les marshmallows grillés. La bière était sirotée loin des yeux indiscrets des parents. Il ne nous a pas fallu longtemps pour perdre de vue ceux qui nous avaient attirés dans les bois. Même Sandy était à l'aise. Alors que la lune atteignit son apogée, au milieu des étoiles, et commençait sa descente, Dean a baillé et s'est glissé dans sa tente. ivre et fatigué. Un de moins, et je dis en riant. Qui sera le dernier debout?
J'espère que ce sera toi, a dit Sandy. Je ne veux pas être la seule personne éveillée ici.
J'ai souri et j'ai touché le feu avec un bâton. Tu crois vraiment que le dentiste est dans ses bois? Sandy a haussé les épaules.
J'y croyais, mais maintenant que nous sommes ici, ce n'est pas si mal.
Je suis surpris que tu aies accepté de nous rejoindre.
Quelqu'un doit bien vous protéger, Pandidio.
J'ai rigolé.
Eh bien, je suis content que tu sois là.
Sandy a souri et nous nous sommes regardés un long moment. Puis elle a rapidement détourné le regard et a dit
« Enfin !»
Elle s'est levée.
Je ferais mieux d'aller me coucher.
Mon cœur s'est effondré.
Oh, d'accord.
Bonne nuit. Je suis resté debout, ne sachant pas comment réagir. Un câlin, une poignée de main, un tapement 5. En y repensant maintenant, c'était une invitation que j'étais trop bête pour saisir. Au lieu de cela, j'ai salué avec ferveur, comme si j'étais sur le Titanic au moment où il quittait le port, bien que je sois à portée de main d'elle. Une démonstration embarrassante que j'ai immédiatement regrettée. Sandy a disparu dans sa tente et, avec un soupir, j'ai étouffé le feu et décidé d'aller me coucher moi aussi. Je me suis réveillé peu de temps après au son d'une tente qui se dézippait. Je me suis rapidement assis dans ma tente.
Sandy,
j'ai chuchoté avec espoir. Mais alors que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité, j'ai réalisé que ce n'était pas ma tente qui avait été ouverte. Je me suis approché, j'ai ouvert la mienne et j'ai passé la tête dehors. Et j'ai vu que la tente de Sandy était ouverte. Je me suis immédiatement inquiété et j'étais sur le point d'appeler son nom quand j'ai entendu une autre fermeture éclairée. Je me suis retourné à temps pour voir la tente de Dean qui s'était fermée. J'ai senti le souffle me manquer et je me suis effondré dans ma tente. Dean et Sandy, bien sûr. Comment je peux être aussi stupide? Toutes les filles que je connaissais à l'époque voulaient Dean. Pourquoi Sandy serait-elle différente? Je me suis redressé, j'ai refermé ma tente et je me suis allongé sur mon sac de couchage, le cœur brisé et amer. Après environ une heure, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, ce n'était pas au son d'une fermeture éclair, mais plutôt à la sensation aiguë du métal qui raclait mes dents, accompagnée d'un liquide qui dégoulinait sur mon visage. Quand la réalité de ce que je ressentais me frappait, j'ai ouvert les yeux, paniqué. Sandy était à genoux au-dessus de moi, avec un large sourire.
« Merde !»
J'ai crié, et je l'ai repoussé d'un coup de pied. Puis j'ai roulé sur moi-même rapidement, et j'ai attrapé ma lampe torche. Je l'ai allumée et je l'ai pointée sur elle. Et c'est là que j'ai vu que toute la chair qui recouvrait ses dents avait été découpée. Qu'il ne restait qu'un large sourire carnassier et dégoulinant de sang. Derrière ses yeux sauvages, il y avait une âme qui n'était pas la sienne. J'ai crié pour Dean, pas de réponse. Sandy, une curette à la main, a recommencé à s'approcher de moi. Et tandis qu'elle le faisait, j'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti un couteau de poche. Puis j'ai rapidement coupé le tissu à l'arrière de la tente et je me suis précipité dehors.
Dean !
J'ai crié. Toujours pas de réponse. J'ai couru autour de ma tente jusqu'à celle de Dean et j'ai passé ma tête à l'intérieur.
Dean, on doit...
J'ai fait une pause. La tente était vide. J'ai rapidement fait marche arrière et je me suis retourné pour voir Sandy déambuler dans ma direction. Puis derrière la tente de Dean, j'ai entendu le craquement d'une brindille. Je me suis retourné et Dean était là. Un large sourire, sans expression, et un regard de possédé dans les yeux. Il a commencé à s'avancer vers moi, une curette en métal scintillant au clair de lune, prête à gratter. Sans hésiter, je me suis retourné, j'ai couru hors du camping,
sautant par-dessus les troncs, me cachant sous les branches et me frayant un chemin à travers les buissons épineux. Je n'étais propulsé que par la peur, ne sachant si je me dirigeais vers la sortie des bois ou vers l'intérieur. En fuyant, j'ai jeté un coup d'œil derrière moi et, à ma grande horreur, j'ai découvert qu'il courait après moi. Puis j'ai trébuché. J'ai trébuché dans un ruisseau étroit et peu profond. Une chute dont je me suis vite rendu compte qu'elle avait entraîné une fracture de ma cheville. Mais je n'ai pas eu le temps de soigner ma blessure, de pleurer ou de me plaindre. Je savais que le ruisseau était près de la lisière des bois. J'étais presque sorti. J'ai réussi à sortir du ruisseau et à me hisser sur la rive. Puis je me suis arrêté. À quelques centimètres de mon visage se trouvaient des bottes en cuir, en lambeaux, datant des siècles passés. En levant les yeux, j'ai pu voir le reste de l'homme, habillé de vêtements coloniaux, en lambeaux, et le visage aussi en lambeaux et vieilli que sa tenue. De la chair pourrie et des touffes de cheveux blancs, des yeux troubles, sans paupières, et un large sourire sans lèvres. Le dentiste. Je me suis repoussé dans le ruisseau vers Dean et Sandy, qui était maintenant si proche que je pouvais entendre leur respiration bruyante. Je me suis levé et j'ai descendu le ruisseau en boitant. Puis Dean et Sandy sont arrivés de l'autre côté, et eux aussi avaient ralenti et me suivaient. Des sourires grotesques et des curettes métalliques scintillant m'entouraient. Et alors que je boitais et trébuchais le long du ruisseau, tombant de temps en temps sous la douleur, puis me relevant rapidement, j'ai vu la lumière d'une maison voisine, juste à l'extérieur des bois.
À l'aide !
J'ai crié. J'ai continué à boiter en avant. Les sourires continuaient à suivre. Comme je continuais, les premiers signes de l'aube ont commencé à apparaître. J'ai crié à nouveau, aussi fort que je pouvais.
Au secours !
Le soleil se levait. Les oiseaux chantaient. Pourtant, les sourires suivaient toujours. J'ai accéléré. La douleur montait dans ma jambe. Encore une fois, j'ai crié, faisant maintenant du jogging sur une cheville cassée. Je pouvais voir le soleil à l'horizon quand j'étais à la lisière des bois et je suis tombé dans la cour. Et j'ai crié une fois de plus. Une porte s'est ouverte et une femme s'est précipitée à l'extérieur.
« Il faut que j'entre, s'il vous plaît !»
Elle a remarqué ma cheville et a dit « Attendez ici, je vais appeler une ambulance. »«
Non !»
J'ai crié.
« On doit d'abord rentrer à l'intérieur !»
Elle s'est arrêtée.
« Pourquoi ?»
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Ils sont dans les bois.
Qui ?
Les dentistes.
La femme a regardé devant moi et a froncé les sourcils. Je ne vois personne. Je me suis retourné et j'ai regardé. Ils étaient partis. On n'a jamais retrouvé Dean et Sandy. Mais je sais qu'ils sont là, dehors. Attendant patiemment. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi ils ont fini comme ça, alors que moi j'ai été apparemment épargné. La seule raison qui me vient à l'esprit est que certaines personnes sont choisies comme dentistes, tandis que d'autres, comme moi, sont des patients dont les dents doivent être piquées et poncées. Si jamais vous tombez sur les dentistes, priez pour devenir un patient. Une fois les derniers mots sortis de sa bouche, il a serré ses deux poings et j'ai vu dans ses yeux une détermination sans faille et une volonté de faire, de venger ses amis. Malgré l'horreur du monstre qu'elle allait devoir faire face. J'étais impressionné par son attitude. Je lui ai donc demandé tout simplement s'il n'avait pas peur d'affronter ce monstre. Après une courte hésitation, il m'a révélé que ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait des phénomènes étrangers, qu'il avait vécu des expériences bien pires. Ça ne m'étonnait pas vraiment. Tous les locaux savent que la région n'avait pas bonne réputation. Et seuls les plus téméraires ne déménagent pas dans un endroit plus tranquille. En tout cas, c'est de cette manière que j'ai appris l'existence du siffleur. Au moment moment de prononcer le nom du siffleur, il n'avait plus le même regard déterminé et froid qu'il avait maintenu jusque-là, malgré les horreurs commises par le dentiste. Il a avalé une gorge du café devenu froid que je nous avais servi, et s'est lancé dans son récit qui, encore à ce jour, le fait trembler le soir, quand le silence règne et que l'anxiété s'installe avec lui. Le siffleur. Une histoire de Fisherman Tales. L'étranger marchait dans la rue, vêtu d'un costume et d'une cravate. Il était minuit. Je venais de rentrer d'une soirée avec des amis, quand j'ai vu l'étranger passer devant chez moi, en traînant les pieds.
Hé, l'ami, vous allez bien ?
J'ai crié depuis le porche d'entrée. L'étranger m'a ignoré et a continué à marcher. J'ai brièvement envisagé d'ignorer son comportement étrange et de rentrer chez moi. Mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je connais la plupart des gens qui vivent le long de la route. Certains sont même des parents. Alors je ne pouvais pas en bonne conscience ignorer mon instinct. Je suis remonté dans ma voiture, pensant qu'elle serait une bonne barrière entre l'étranger et moi s'il tentait quoi que ce soit, et je suis parti à sa poursuite. Il n'était pas loin quand je me suis approché de lui. J'ai descendu la vitre du côté passager, j'ai demandé
« Ça va ?»
L'étranger était trempé de sueur et regardait fixement à travers des lunettes embuées. Il semblait avoir une quarantaine d'années, peut-être moins.
« Monsieur ?»
ai-je dit.
« Votre voiture est tombée en panne quelque part ?»
Sans me regarder, l'homme a répondu tranquillement. « Non. »«
Vous habitez dans le coin ?»
Il y a une pause momentanée, suivie d'un autre « non » silencieux. J'ai continué à faire rouler ma voiture au rythme de l'étranger, en observant ses mains tremblantes. Il semblait anxieux. Que ce soit à cause de moi ou d'autre chose, je ne sais pas. Mais son comportement n'a fait que donner une raison supplémentaire de s'inquiéter.
Avez-vous besoin que j'appelle quelqu'un ?
Non. Je l'ai regardé tranquillement pendant un moment. Puis je lui ai demandé quelque chose à quoi toutes les fibres de mon corps s'opposaient.
Vous voulez que je vous dépose quelque part ?
L'homme s'est arrêté de marcher. J'ai appuyé sur les freins et je me suis arrêté à côté de lui. Il est resté silencieux, sa poitrine se gonflant et s'éteignant à chaque respiration. Puis il a tourné la tête et a dit « Non ». Il a tourné son regard vers la route devant lui et a continué de marcher. Je ne l'ai pas suivi. Pour me rassurer, je me suis dépêché de passer devant chez moi et de me rendre chez ma cousine. Elle vit à seulement 3 pâtés de maison de chez moi. Habituellement, elle et sa famille sont au lit vers 10h. Mais cette fois-ci, j'étais surpris de constater que les lumières étaient encore allumées. Je suis allé jusqu'à la porte et j'ai frappé 2 ou 3 fois. Son mari, Dan, a soigneusement entrouvert la porte, a vu que c'était moi, puis s'est détendu.
Salut Scott.
« Salut, Dan », ai-je dit, en regardant le fusil de chasse accroché à son côté. « Un problème ?» Dan a soupiré.
« Peut-être. Entre. »
J'ai fait un pas à l'intérieur.
« Où est Cathy ?»«
Juste là », a chuchoté Cathy en se glissant hors de la chambre des enfants et en fermant discrètement la porte.
« Qu'est-ce que tu fais ici si tard ?»«
Eh bien... »
Je me suis gratté l'arrière de la tête.
Il y a un gars qui est habillé en costume cravate, qui marche le long de la route et qui agit un peu bizarrement.
Il est venu de ce côté, je voulais juste m'assurer que tout le monde allait bien.
Dan et Cathy ont échangé un regard. Puis Cathy a dit « Je pense qu'il était là un peu plus tôt. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'étais dans le jardin avec les chiens, je les laissais faire leurs besoins avant d'aller me coucher. Puis j'ai entendu quelqu'un siffler.
Siffler ?
Oui, comme une personne qui siffle un air dans la rue. J'ai regardé Dan et il a hoché la tête. Tu sais, on a cette clôture derrière pour que les chiens ne s'éloignent pas. Donc je ne pouvais voir personne, mais je pouvais entendre qu'il se déplaçait le long du périmètre de la clôture. Un frisson m'a parcouru. Les chiens ont aboyé? C'est la partie la plus étrange. Ils ne l'ont pas fait. Ils aboient à tout bout de champ. Mais là, ils ont continué à renifler l'herbe, comme si le sifflement n'existait pas. Qu'est-ce que t'as fait ensuite? J'ai couru à l'intérieur et je l'ai dit à Dan. Et il est allé dehors et a regardé.
J'ai fouillé toute la cour, j'ai vu personne. Ajouté Dan.
Tu as vérifié la route?
J'ai marché jusqu'au bout de l'allée et j'ai regardé des deux côtés. Rien.
Tu penses que ça aurait pu être un oiseau? Cathy a secoué la tête. Impossible. C'était une personne. On devrait peut-être appeler les flics. Cathy et Dan ont accepté, et Dan a sorti son téléphone portable et a appelé la police. Nous leur avons donné la description de l'étranger et ils nous ont dit qu'ils enverraient une patrouille pour vérifier. Je vais monter dans la voiture et voir si je peux pas le trouver. Et j'ai appris que Dan est raccroché. Ne fais rien de stupide, Scott. M'a supplié Cathy. Ne t'inquiète pas. Je veux juste le voir. Je me suis dirigé vers la porte et Cathy m'a arrêté. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas ici ce soir? Je me suis tourné et j'ai souri. Tout ira bien. En plus, je dois sortir le chien. Amène-lui ici avec toi. J'ai pris Cathy dans mes bras et je suis sorti vers la voiture. Je t'appelle si jamais je le vois. Cathy n'a pas discuté davantage et m'a salué comme si je lui avais pris son cœur et que je n'étais pas prêt de lui rendre. Une fois arrivé chez moi, j'ai continué à chercher l'étranger. Il était raisonnable de supposer qu'il devait être bien loin sur la route, mais j'ai fini par conduire bien plus loin qu'il ne saurait aller à pied, sans même trouver le moindre indice de lui. À la place, j'ai trouvé le policier qui était venu patrouiller. J'ai ralenti à côté de sa voiture et j'ai baissé ma vitre. Un policier moustachu m'a regardé. Je lui ai dit que c'était nous qui avions appelé et que l'étranger ne semblait plus être sur la route. Il a dit qu'il continuerait à chercher, puis nous nous sommes séparés. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire que de rentrer chez moi. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai remonté l'allée de gravier, éteint la voiture et je suis rentré chez moi. Ouvrir la porte a effrayé le chien, comme d'habitude, mais son aboiement s'est calmé quand j'ai allumé les lumières.
Hey, « Hé, mon pote !»
ai-je dit en le caressant. J'ai tenu la porte ouverte et je l'ai laissé courir dehors pour faire ses besoins. Je me tenais sous le ciel étoilé, regardant le chien renifler la terre. Quand j'ai entendu un air siffler venant de derrière la maison, il se propageait dans l'air comme une chanson balayée par le vent. Mais c'était une nuit où les arbres étaient immobiles et il n'y avait pas une brise dans l'air. La mélodie est devenue plus claire et a flotté autour de la maison comme s'il était à mes côtés. C'était indiscutablement humain. Mais le chien n'a pas aboyé. Il n'a pas réagi. J'ai précipité mon chien à l'intérieur. J'ai attrapé une batte de baseball que je garde près de la porte et j'ai fait le tour de la maison, tendu et prêt à frapper. Chaque ombre semblait être un intrus cette nuit-là. Chaque branche qui tombait et chaque feuille qui bruissait. Chaque hibou qui ulule et chaque grillon qui chante. Chaque lapin qui sautille et chaque raton laveur qui rampe. Mais rien de tout cela n'était l'étranger en costume. J'ai appelé Cathy, après avoir entendu le sifflement, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a dit que le policier était passé et continuait de regarder aux alentours. Mais au matin, il était devenu clair que l'étranger avait disparu. Et c'était fini. Quelques jours plus tard, tout était redevenu parfaitement calme dans le quartier. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Monsieur Weston vivait à deux pas de chez moi. Et aussi loin que je me souvienne, il a toujours été paraplégique. En fauteuil roulant et seul,
Monsieur Weston serait la dernière personne à se pendre. Mais deux jours après que nous ayons entendu le sifflement, Monsieur Weston a été retrouvé pendu à un arbre derrière sa maison qu'il n'aurait sans doute pas pu atteindre tout seul. Les détectives ont dit qu'il avait l'air d'avoir été pendu là depuis deux jours. Mais ça ne s'arrête pas là. Deux maisons plus bas de la maison de Monsieur Weston vivaient un jeune homme et sa femme. Tous deux en parfaite santé. Des vétérans, des gardes-côtes, tous les deux. Ils passaient donc beaucoup de temps à vivre avec les dangers de la mer et de l'eau. La mer et tout cela. Ils ont été retrouvés morts dans leur baignoire. Un jour après que Monsieur Weston ait été retrouvé pendu à un arbre. Noyé. Et peut-être que vous avez deviné, mais d'après le médecin légiste, ils étaient là depuis environ trois jours. Il y a un point commun que nous avons découvert depuis. Parmi ceux d'entre nous qui vivent encore le long de la route, quelqu'un dans leur foyer a entendu le sifflement cette nuit-là. Ils l'ont entendu, ils ont enquêté, et ils n'ont rien trouvé. Se pourrait-il que les trois personnes décédées n'aient jamais entendu le sifflement? Je ne dors plus très bien. J'ai trop peur de rater l'air sifflé. Un sifflement que même les chiens n'entendent pas. Un avertissement qu'ils ne peuvent pas donner. J'espère, mes chers auditeurs, que vous avez apprécié ces trois récits glaçants. La soirée a été longue et riche en frayeurs. Un repos bien mérité s'impose. Ce week-end, je dois aller en ville rencontrer une personne qui n'a pas voulu s'identifier au téléphone, mais qui travaillerait dans une morgue. Apparemment, depuis quelque temps, les membres de certains cadavres disparaîtraient. Je vous promets de vous raconter mes découvertes à mon retour. Enfin, si je reviens en un seul morceau. Passez une bonne soirée, et n'oubliez pas, mes chers auditeurs, méfiez-vous des ombres.